Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le coup d'envoi de la conférence de Munich, la grande réunion annuelle consacrée à la sécurité. Elle a commencé à se pencher sur l'Ukraine, presque 3 ans après le début de l'agression russe. L'Ukraine et ses alliés européens redoutent un éventuel règlement négocié à leur détriment par les Américains et les Russes, à suivre dès le début du journal. Dans l'immédiat, les hostilités continuent sur place. Kiev accuse la Russie d'avoir endommagé avec un drone l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl. Israël dans l'attente de 3 nouveaux otages. C'est aujourd'hui que le Hamas communique les noms des 3 otages qu'il compte libérer demain samedi contre des détenus palestiniens. Dans le dossier ukrainien. Aujourd'hui donc, tous les regards sont tournés vers Munich. C'est là, dans la capitale de la Bavière, que se rend le président Volodymyr Zelensky. Il a rendez-vous avec la nouvelle administration américaine, le vice-président J.D. Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio. Les discussions ont lieu dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité, grand rendez-vous annuel de l'élite diplomatique. Elles interviennent dans la foulée de la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un échange téléphonique en milieu de semaine qui a fait craindre à Kiev et ses alliés européens un règlement à leur détriment de la guerre en Ukraine. Le président américain veut lancer des négociations immédiates et il promet une rencontre en personne avec son homologue russe. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
23 pays de l'OTAN sont aussi membres de l'Union européenne et pour eux, la perspective de négociation menée par Donald Trump n'est pas une bonne nouvelle, malgré la promesse du ministre américain de la Défense qu'il y aura des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ils sont plusieurs à s'exprimer pour dénoncer les concessions promises à l'avance à Vladimir Poutine. C'est le cas de la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Elle était invitée à cette réunion des alliés. Elle dénonce une politique d'apaisement. Elle estime qu'un accord dans le dos de l'Europe ne fonctionnera pas. Elle rejoint le ministre allemand de la Défense, Oskar Pistorius, qui dit regretter la méthode Trump. Et plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le danger d'une paix qui forcerait l'Ukraine à capituler. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, leur a pour ainsi dire affirmé que le président des États-Unis était seul maître à bord des négociations à venir. Mais les Européens affirment qu'ils ne pourront être seuls à financer ou à fournir des troupes de maintien de la paix s'ils ne sont pas associés à la négociation. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI.
Et côté français, dans une interview Financial Times, Emmanuel Macron met en garde contre une paix qui reviendrait à une capitulation de l'Ukraine. Il se demande si Vladimir Poutine est sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable. Sur place, les hostilités continuent à 8 jours du 3e anniversaire de l'agression russe. Kiev accuse la Russie d'avoir endommagé à coups de drone l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette arche sert à confiner le réacteur accidenté. C'était il y a près de 40 ans. Israël dans l'attente de 3 nouveaux otages du Hamas. C'est aujourd'hui que ce dernier doit donner aux autorités israéliennes les noms des 3 personnes qu'il compte libérer demain samedi contre des détenus palestiniens. À propos encore des otages, le comité international de la Croix-Rouge qui a facilité ces échanges se dit très inquiet de leur situation. Reçu hier soir à la Maison-Blanche, le premier ministre indien Narendra Modi a affiché sa proximité avec Donald Trump dans la continuité du premier mandat du président américain. Tous deux sont convenus d'entamer des négociations sur le déséquilibre commercial entre leurs 2 pays. Le déficit au profit de l'Inde atteint presque 100 milliards de dollars. Le Vatican annonce que le pape François a dû être hospitalisé ce matin dans un hôpital de Rome pour soigner une bronchite dont il souffre depuis la semaine dernière. Le pape est âgé de 88 ans. Après une première plainte en Algérie, l'écrivain Kamel Daoud a désormais rendez-vous avec la justice française. En cause, la publication de son dernier roman, Ouris, lauréat du prix Goncourt 2024. Son auteur est accusé d'avoir, je cite, « volé l'histoire d'une jeune femme algérienne, Sahla Arban, qui réclame 200 000 euros de dommages et intérêts. » L'auteur dément. Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Gilles.
Que reproche-t-on précisément à Kamel Daoud ?
Alors, à la sortie de son roman, Ouris, une jeune femme en Algérie, pays natal de Kamel Daoud, se reconnaît dans le personnage principal. Elle s'appelle Saada Arban. Petite fille, elle a survécu à un égorgement pendant la guerre civile alors que des terroristes islamistes massacraient sa famille. Une histoire donc toute particulière qui la pousse à consulter pendant plusieurs années une psychiatre qui n'est autre que l'épouse de Kamel Daoud. Dans le document d'assignation en justice, les avocats de Saada Arban font l'inventaire des similitudes très troublantes entre elle est l'héroïne du roman. Elles vivent dans le même quartier, dans le même immeuble, au même étage. Elles ont fréquenté le même lycée, ont vécu la même opération chirurgicale, ont perdu leur voix. Leurs parents biologiques exerçaient la même profession, berger. Leur famille adoptive se ressemble. Refusent toutes les deux de fêter l'Aïd car elle implique l'égorgement d'un mouton. Elles ont des passions communes pour les chevaux ou les parfums, ont toutes les deux des tatouages, etc. La liste est assez longue.
Donc je le disais, l'auteur dément et il accuse le régime algérien d'être derrière cette histoire.
Oui, Kamel Daoud, il faut le rappeler, est un opposant politique et il vit d'ailleurs en France depuis 2023. Et tout ça intervient dans un contexte de tensions diplomatiques et littéraires également entre la France et l'Algérie, puisqu'un autre écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, est toujours détenu en Algérie. Kamel Daoud répond, lui, que l'histoire de Saada Arban est en fait connue de tous car elle a déjà témoigné dans la presse et qu'elle n'est pas la seule jeune femme à avoir vécu ce genre de choses pendant la guerre civile. Mais le média d'investigation Mediapart a pu s'entretenir avec elle. Saada Arban raconte que non, des jeunes filles qui portent des canules après avoir survécu à un égorgement, il n'y en a qu'une. Elle ajoute aussi que sa psychiatre, à plusieurs reprises, lui avait demandé si elle autorisait Kamel Daoud, son mari donc, à raconter son histoire, une demande qu'elle a refusée. Ce sera donc au tribunal judiciaire de Paris de trancher le 7 mai prochain. L'éditeur de Kamel Daoud, Gallimard, est lui aussi poursuivi.
Amélie Beaucourt, en direct dans ce journal. Merci à vous, Amélie. Également dans l'actualité en France, la pénurie de chercheurs dans les nouvelles technologies. Même le géant Thales n'est pas épargné. Il souffre d'un manque de jeunes compétents dans les STEM comme sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Dans un centre de recherche et développement à Palaiseau, dans la banlieue sud de Paris, la situation n'est pas nouvelle, mais Thales s'organise. Reportage d'Oriane Gendreau.
Aujourd'hui, on va parler un peu de cette antenne quantique.
Pas besoin de blouse blanche pour Juan Trastoy, chercheur en physique quantique chez Thales. Il travaille depuis 8 ans et chaque année, au moment de trouver des jeunes doctorants pour l'accompagner dans ses recherches, c'est la même histoire.
S'il n'y a pas des étudiants, c'est difficile d'avancer sur un projet.
Et encore, le chercheur n'a pas trop à se plaindre.
Il y a des sujets qui sont plus à la mode. Donc ici, comme c'est des sujets quantiques, sont plus à la mode. Donc les étudiants cherchent un peu plus ce type de sujets.
Les jeunes en sciences et technologies sont rares. Une pénurie qui ne date pas d'hier. Dans le laboratoire à côté de celui de Juan Trastoy, Laura Lee travaille sur le biomimétisme. Elle a quitté son école d'ingénieur il y a 20 ans, mais le confirme, déjà en 1998, personne ne se lançait dans la recherche industrielle.
Il doit y en avoir 10. Voilà, à peu près sur 80, sachant que les autres personnes sont parties en projet, sur d'autres métiers, même dans la finance.
Patrick Pellata est le président de l'Académie des technologies en France. Pour lui, les sciences perdent de leur attractivité dès le collège.
À cause de beaucoup de choses, il y a un désintérêt pour les sciences et les technologies dans le système éducatif. Ça aide pas des jeunes à aller dans ces métiers-là.
En 2023, la France était un des pays européens les moins bien classés en mathématiques et en sciences. Une place qui ne pousse pas les élèves vers les métiers technologiques. Sarah Lann, ingénieure de recherche chez Thales, est bénévole dans une association appelée Elle bouge pour l'orientation. Destinée normalement à motiver les jeunes filles à se tourner vers les nouvelles technologies, elle a dû changer de cible.
Quand je vais en collège, j'ai déjà beaucoup de collégiennes qui me disent « Non, mais les maths, c'est dur ». J'avoue que quand on y va, on parle aussi de plus en plus aux jeunes garçons parce que, en fait, tout le monde me dit « Les maths, c'est dur ». Et c'est un peu dommage parce que les maths, c'est vachement bien et ce serait bien que plus de monde y croit et surtout qu'ils aient pas peur. Souvent, ils ont très, très, très peur.
Lutter contre l'autocensure passe aussi par des bourses. Pour Marco Hermans, directeur scientifique chez Thales, il faut aller chercher les populations défavorisées. C'est pourquoi le groupe met à disposition près de 250 000 euros pour motiver les jeunes à rejoindre les métiers technologiques.
Nous allons soutenir financièrement des étudiants au parcours remarquable, ici de milieux défavorisés, ayant commencé leur cursus académique dans les domaines des STEM.
La France n'est pas la seule touchée par cette pénurie. En décembre dernier, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique montrait que les pays de l'Union européenne manquaient cruellement de personnes compétentes dans les nouvelles technologies.
Le reportage d'Oriane Gendreau. Pour finir, chaque année, la Saint-Valentin est propice aux achats de fleurs. Cette fois, la fête des amoureux est quelque peu ternie par les révélations de l'UFC Que Choisir. Des analyses en laboratoire ont montré une contamination massive aux pesticides des fleurs coupées. Voilà, c'est bien dommage. Très bonne journée sur RFI, elle continue dans un instant avec grand reportage.